Revue de presse avec David Abiker.
Bonjour David.
Bonjour Renaud, bonjour à tous.
La revue de presse et les journaux étrangers toujours impressionnés par la manière dont les Français pratiquent le dialogue social.
Macron parle, la rue répond, résume El Mundo, mais la rue est beaucoup plus enflammée que précédemment, observe ce quotidien espagnol. Personne ne flanche, rapporte El País. Ni Macron, ni le mouvement soutenu par 70% des Français. Le journal s'inquiète néanmoins des affrontements entre la police et certains manifestants. La Repubblica italienne, elle, observe la difficulté des services d'ordre de contenir les casseurs qui sont passés à l'action. La radicalisation est le plus grand danger qui menaçait la mobilisation, explique le journal argentin El Clarín. À ses lecteurs. Le Soir de Belgique parle de nausée soudaine face à un pouvoir conspué, méprisant et insensible. Pour le New York Times, c'est le plus grand défi auquel M. Macron a jamais été confronté. Les Anglais sont un peu plus distanciés. La loi est passée, note la BBC. Macron peut tabler sur l'essoufflement du mouvement. Et s'il se radicalisait par trop de violence, les Français s'en détourneraient. Le Daily Telegraph lui évoque la fureur d'une foule face à une réforme qui pourrait valoir à Emmanuel Macron le même sort que le roi décapité Louis XVI. Tant qu'on ne décapite pas dimanche le roi Charles III, tout ira.
Pendant que les uns manifestent, eh bien les autres trinquent, David.
Ce matin, Libération titre « La République en masse ». Le bien public est admiratif et titre lui « Quel peuple ! L'humanité sombre dans le délire ! Hier, vous étiez une foule, vous êtes un peuple aujourd'hui. Les manifestants, ce sont certainement pas ce peuple, et encore moins le peuple des commerçants que le dialogue social à la française empêche de travailler telle une maladie chronique. À bout de nerfs, c'est Catherine dans Le Parisien aujourd'hui en France. Elle tient un restaurant à Nantes et elle est révoltée. Les feux sur les rails du tramway, les gens cagoulés en fin de cortège, prêts à en découdre. J'ai fait 45 ouverts aujourd'hui au lieu des 120 habituellement. Le chiffre d'affaires a baissé de 20% en janvier. Le Groupement National des Indépendants Hôtellerie Restauration estime que les pertes des professionnels avoisinent 20 à 30%. C'est pareil pour les commerces de bouche. Les jours de grève, les établissements sont obligés de fermer plus tôt pour libérer les employés qui ne font pas grève. Parce qu'il faut le dire, une majorité de Français travaille. Une immense majorité de Français travaille encore. La France de la CGT, de la CFDT, ce n'est pas toute la France, loin de là. Et Le Parisien aujourd'hui en France fait bien de nous rappeler que les indépendants, commerçants, professions libérales sont excédés et sont bien les dindons de la farce d'une réforme mal négociée, mal présentée et mal contestée.
David, à Carcassonne, on s'en remet à Dieu pour que les affaires prospèrent.
Sur le site de France 3 Régions, vous apprendrez qu'hier, dans les allées du nouveau supermarché de la zone Rocadest à Carcassonne, un évêque, Monseigneur Valentin, a béni plusieurs rayons d'alimentation et de vêtements à la demande du patron des hypermarchés de la ville.
Il y est allé. Ah,
mais non, il l'a fait. Ça a surpris beaucoup de gens, mais l'évêque assure que bénir un lieu de travail, c'est une tradition dans la religion catholique et qu'il l'a fait pour les conditions de travail et qu'il n'a pas prié pour les marges.
Le patron
du magasin a précisé que la prière a été faite après fermeture du magasin devant une dizaine de salariés, croyants et volontaires. Alors certains s'interrogent, notamment dans Le Parisien où je lis ceci. Bénir un supermarché en pleine crise sociale, était-ce bien raisonnable? Comme si la journée d'hier était dédiée à une seule église, la CGT, et à un seul acte de foi manifesté. Eh ben non, on peut bénir un supermarché dans la France, fille aînée de l'église.
Voilà, ben, je propose qu'un évêque vienne bénir votre revue de presse très rapidement. Oui. David, dans Le Figaro, plaidoyer, alors on change de sujet, plaidoyer pour les rats.
Oui, plaidoyer, une pleine page hein, dans Le Figaro, édifiante sur le rôle des rats dans l'évacuation des déchets et l'équilibre écologique des villes. C'est en tout cas comme ça que le voient les animalistes et les écologistes de l'association PAZ. PAZ, ça veut dire Paris, Animaux Zoopolis, autrement dit une association qui milite pour que chacun trouve sa place dans la capitale, partager l'espace entre humains et non-humains de façon pacifique. Il n'y a jamais eu autant de rats en France. La population a bondi dans les grandes villes de 35% ces dernières années. Pas une raison pour les exterminer, explique la conseillère de Paris du parti animaliste Dushka Markovic, qui a popularisé l'an dernier, souvenez-vous, l'expression
«
surmulot ».
Surmulot, oui.
Alors voilà ce qu'elle dit. Nous devons cohabiter avec ces rongeurs de quel droit prive-t-on ces animaux cantonnés dans les sous-sols d'un accès à la lumière? La politique d'extermination n'en viendra pas à bout et ne fera que sélectionner les plus forts. Il faut lutter contre les préjugés et dénoncer, je cite là Amandine Saint-Sivens, cofondatrice de l'association PAS, la politique séparatiste de la mairie et les militants de citer un sondage IFOP selon lequel les Parisiens sont favorables à l'utilisation d'une alternative non létale face aux rats. Les jeunes auraient même une meilleure image des rats que les plus vieux grâce à Ratatouille, le dessin animé de Walt Disney. Bref, le rat, nouveau clivage politique entre jeunes et vieux. Le papier du Figaro ne manque pas néanmoins d'évoquer les maladies véhiculées par l'animal et rappelle qu'un couple de rats peut être à l'origine en une année de 1000 naissances par an.
Effectivement, ça fait beaucoup. Alors restons zen en ouvrant les éco-weekends.
Avec un portrait d'Henri Giscard d'Estaing, 20 ans qu'il préside non pas à nos retraites, mais plutôt aux congés payés de ceux qui peuvent s'offrir le Club Méditerranée. Une réussite pour ce président à vie, comme disent les éco-weekends, et qui fera, j'imagine, des jaloux. Dans les éco-weekends, à lire également l'itinéraire du seul Français à avoir poussé les portes du temple bouddhiste japonais Antaiji, sous le nom de moine Tozan. C'est là qu'on pratique dans ce monastère la véritable zénitude, méditer en silence, assis en tailleur, dans l'ombre, 10 heures par jour. Être zen, c'est épuisant et ça se travaille, écrivent les échos, y compris pendant les repas préparés au feu de bois, produits à peine transformés, baguettes orientées dans un sens très précis, thé à la juste température. Et dans le même numéro, portrait de Mary Jane Copps, une Canadienne spécialisée dans la communication. Vous savez ce qu'elle apprend aux jeunes? Elle apprend aux jeunes à téléphoner. Les jeunes ne savent plus téléphoner ni se présenter correctement au téléphone, c'est incroyable. On va terminer avec une épreuve du bac 2023, ça se passe en France cette fois-ci. Que nous raconte le site Food and Sense, consacré à l'univers des chefs? Le candidat traitera, c'est l'épreuve du bac 2023, l'étude critique de documents suivantes, le patrimoine facteur de puissance de la France. Et dans les documents à étudier par les futurs bacheliers, une photo d'un dîner d'État à l'Élysée sous De Gaulle et le compte-rendu d'une audition du chef Guy Savoy à l'UNESCO. Guy Savoy défendant la cuisine et la diversité de notre patrimoine culinaire, voilà une consécration pour un chef français, que sa parole devienne un sujet du baccalauréat à étudier et à analyser par nos jeunes compatriotes. C'est presque mieux qu'une troisième étoile au guide Michelin.
Le gourmand et le gourmet David Abiker sur l'antenne de Radio Classique pour sa revue de presse. Merci David, je vous souhaite un excellent week-end. Il est 8h39 sur notre antenne dans un instant. Esprit libre avec Cécile Cornudet et Jean-Marie Colombani.